Chapitre 14. Indication. J'ai appris une chose au cours de mes voyages. Ce qu'une région tient pour une grande richesse est considéré comme ordinaire dans une autre. Le poisson, que nous ne donnerions pas à manger à un chat à Castelserre, passe pour un mets délicat dans les cités de l'intérieur. Ici, l'eau est synonyme de fortune. Là, les crues constantes du fleuve sont à la fois une gêne et un danger. La fleur de cuir, les faïences gracieuses, le vert transparent comme l'air, les plantes exotiques, j'ai vu tout cela en si grande quantité que les propriétaires n'y reconnaissent même plus les signes de richesse. Ainsi peut être la magie. Si elle est assez abondante, devient-elle banale? Au lieu de susciter l'étonnement et la crainte, elle sert à créer des routes et des panneaux indicateurs avec une prodigalité qui laisse pantois ceux qui n'en disposent pas. Ce jour-là, je voyageais, comme précédemment, à flanc d'un versant boisé. Tout d'abord, la pente resta douce et je demeurai en vue de la route au-dessus de moi. Les branches des immenses conifères avaient retenu la plus grande partie de la neige tombée dernièrement, et si le terrain était accidenté et couvert çà et là de plaques de neige, ma progression n'en était guère entravée. Vers la fin de la journée, toutefois, la taille des arbres décrut peu à peu et le versant devint de plus en plus escarpé. La route serrait la montagne et je marchais en contrebas. Lorsqu'il fut temps de monter le camp, mes compagnons et moi eûmes du mal à trouver un emplacement suffisamment plan pour y dresser la tente. Nous dûmes descendre assez bas pour atteindre une zone où le sol retrouva quelque horizontalité. Une fois la yourte installée, Ketriken se mit à regarder la route, au-dessus de nous, les sourcils froncés. Puis, elle sortit sa carte. Elle l'examinait à la lumière déclinante du jour, quand je lui demandais ce qui n'allait pas. Elle tapota le manuscrit du bout de sa moufle, puis indiqua d'un mouvement du bras la pente au pied de laquelle nous nous trouvions. « Demain, si la route continue à monter et la pente à s'accentuer, vous ne pourrez plus soutenir votre allure. Nous sortirons des arbres demain soir. Nous devons constituer une réserve de bois dès à présent, à la mesure de ce que les gépas peuvent porter. » Elle fronça de nouveau les sourcils. « Il nous faudra peut-être ralentir pour vous permettre de nous suivre. » « Je resterai à votre hauteur, » promis-je. Elle planta son regard bleu dans le mien. « D'ici après-demain, vous serez peut-être obligé d'emprunter la route, vous aussi. » « Si cela arrive, je devrais me débrouiller. » Je haussai les épaules et m'efforçai de sourire malgré mon inquiétude. « Je n'ai pas le choix. » « Comme nous tous, » murmura-t-elle à part elle. Le soir, alors que je venais de finir la vaisselle, Caudron sortit à nouveau son carré de tissu sur lequel elle disposa ses cailloux. J'observai l'agencement des pierres, puis secouai la tête. « Je n'ai pas encore trouvé, » dis-je.
« Vous m'en voyez soulagé, » répondit-elle. « Si vous aviez trouvé, seul, ou même avec votre loup, j'en serais tombé raide d'étonnement. C'est un problème difficile, mais nous allons faire quelques parties, et si vous gardez les yeux bien ouverts et l'esprit affûté, vous verrez peut-être la solution. »
Je ne vis rien du tout, et je me couchai la tête pleine de morceaux de tissu et de petits cailloux. Le lendemain se passa comme Ketriken l'avait prédit. Dès midi, je progressais péniblement parmi des broussailles et des éboulis, astéries derrière moi. Malgré les efforts qu'il fallait fournir, elle ne cessait de poser des questions, toutes à propos du fou. Que savais-je de sa famille? Qui lui avait taillé ses vêtements? Avait-il jamais été gravement malade? Réflexe désormais ancré chez moi, je lui répondais en lui donnant le moins de renseignements possible, voire pas du tout. Je m'étais attendu qu'elle se lasse de ce petit jeu, mais elle était aussi obstinée qu'un chien de combat, et pour finir, je me retournais brusquement et lui demandais ce qui la passionnait tant chez le fou. Une expression étrange passa sur ses traits, comme si elle se raidissait devant un défi. Elle ouvrit la bouche, se reprit, puis ne put résister et, me dévisageant avidement, elle déclara « Le fou est une femme, et elle est amoureuse de vous ?» L'espace d'un instant, J'eus l'impression qu'elle s'était exprimée dans une langue étrangère. Planté devant elle, j'essayais de comprendre ce qu'elle voulait dire. Si elle n'avait pas éclaté de rire, j'aurais sans doute trouvé une répartie, mais son rire me vexa tant, j'ignore pourquoi, que je lui tournai le dos et repris ma marche le long du versant escarpé.
« Mais vous rougissez !»
s'exclama-t-elle dans mon dos d'un ton ravi.
« Vous avez même la nuque rouge. Vous avez passé des années auprès d'elle et vous ne saviez rien. Vous ne vous êtes jamais douté de rien. »
« Vous avez des idées complètement ridicules, » dis-je, sans même un regard en arrière.
« Ah ? Lesquelles ?»«
Toutes, » répliquai-je d'un ton glacial.
« Allez-y, dites-moi que vous avez la preuve de mon erreur. »
Sans lui faire l'honneur d'une réponse, je m'enfonçai dans un épais taillis et ne pris pas la peine de retenir les branches qui se rabattaient derrière moi. C'était son rire qui m'agaçait, et elle le savait. Je quittai enfin les arbres et m'arrêtai aussitôt. Le versant tombait presque à pic à mes pieds, parsemé de rares buissons, et le rocher gris et fracturé formait des crêtes glacées sous la neige.
« N'avancez pas !»
lançai-je à Astérie, alors qu'elle parvenait à ma hauteur. Elle regarda ce qui nous entourait, le souffle coupé. Des yeux, je remontai la pente rocheuse jusqu'à la route, taillée dans la montagne, comme la trace d'une gouge dans un morceau de bois. C'était le seul moyen sans risque de passer. Au-dessus de nous s'étendait le versant escarpé, parsemé de blocs erratiques. La pente couverte d'une épaisseur inégale de neige n'était pas tout à fait assez accentuée pour mériter le nom de falaise. Quelques arbres et arbustes y poussaient, tordus par le vent, certaines de leurs racines jetées par-dessus la rocaille. Remonter jusqu'à la route ne serait pas une mince affaire. Pourtant, je n'aurais pas dû m'en étonner. Le versant que nous longions n'avait cessé de s'incliner de toute la matinée. Mais je m'étais tant concentré sur le meilleur chemin à suivre que je n'avais pas pensé à chercher la route des yeux. « Nous allons devoir remonter, » annonçai-je à la ménestrelle, et elle acquiesça sans un mot. C'était plus facile à dire qu'à faire. À plusieurs reprises, je sentis les pierriers glisser sous mes pas, et je dus plus d'une fois m'aider des mains pour grimper. Astérie me suivait, le souffle court.
« Ce n'est plus très loin !»
lui dis-je à l'instant où Œil de Nuit gravissait la pente et arrivait à notre hauteur. Il nous dépassa sans effort, à grands bonds qui l'amenèrent rapidement sur la route. Il disparut, puis revint un instant plus tard, et se mit à nous observer. Peu après, le fou apparut à son tour, et nous regarda d'un air inquiet.
« Vous avez besoin d'aide ? »
nous cria-t-il.
« Non, ça va aller, »
répondis-je. Je m'arrêtai, accroupi, accroché au tronc d'un arbre rabougri, pour reprendre ma respiration et essuyer la transpiration qui coulait dans mes yeux. Astérie fit halte près de moi. Soudain, je sentis la route au-dessus de moi. Comme dans une rivière, un courant s'y déplaçait, et de même que le courant d'un fleuve agite l'air au-dessus de lui, la route créait du vent autour d'elle. Un vent, non d'air froid, mais d'existence, à la fois proche et lointaine. L'étrange essence du fou y flottait. La peur taciturne de Caudron et la détermination teintée de tristesse de Kétriken aussi. Elles étaient aussi distinctes et identifiables que les bouquets de différents vins.
« Fitz Chevalerie !»
Astérie appuya son appel en me donnant un coup entre les omoplates.
« Quoi ? »
demandai-je distraitement.
« Continuez à monter ! Je ne tiens plus accroché ici ! J'attrape des crampes dans les mollets !»«
Hein ?» Je réintégrai mon corps et franchis la distance qui me séparait du bord de la route. Le courant d'air me rendait conscient d'Astérie derrière moi, sans que j'eusse le moindre effort à faire. Je la sentais placer ses pieds, puis s'agripper à un saule noueux au ras de la falaise. Je m'arrêtai un instant devant la route, puis je posai le pied sur sa surface lisse et me laissai glisser dans son courant comme un enfant dans celui d'une rivière. Le fou nous avait attendus. Kétriken, devant la colonne de Gepa, regardait dans notre direction, l'air inquiet. Je pris une profonde inspiration, comme si je rassemblais mon courage. À côté de moi, Œil de Nuit me poussa brusquement la main du bout du museau.
« Reste près de moi »
proposa-t-il. Je me rendis compte qu'il cherchait à affermir sa prise sur notre lien, et je m'effrayais de ne pouvoir l'aider. Je rencontrai son profond regard, et une question me vint soudain. tu es sur la route. Je ne pensais pas que les animaux pouvaient y circuler. » Il émit un grognement de dédain. « Il y a une différence entre considérer comme avisé de faire quelque chose et le faire pour de bon. De plus, tu as peut-être remarqué que les Jepa marchent sur la route depuis quelques jours déjà. » Bien sûr, c'était trop évident. Dans ce cas, pourquoi les bêtes sauvages l'évitent-elles? Parce que nous comptons encore sur nous-mêmes pour survivre. Les Jepa, eux, se soumettent aux humains et acceptent de les suivre au danger, même si ça leur paraît complètement fou. Ainsi, ils n'ont pas l'idée de fuir devant un loup non plus, quand je leur fais peur. Ils courent se réfugier auprès de vous, humains. C'est comme les chevaux ou le bétail devant une rivière. Laissés à eux-mêmes, ils ne s'y jettent que s'ils ont la mort à leur trousse, qu'il s'agisse de prédateurs ou de la famine. Mais l'homme arrive à les convaincre de la traverser chaque fois qu'il désire atteindre l'autre rive. Pour moi, ce n'est pas signe de grande intelligence. « Mais alors, que fais-tu sur cette route ?» demandai-je avec un sourire. « L'amitié, ça ne se discute pas, » répondit-il d'un ton grave.
« Fitz !»
Je sursautai et me retournai. C'était Caudron. « Je vais bien, » lui dis-je, tout en sachant que c'était faux. Le vif me donnait habituellement une conscience aiguë de la présence des autres, mais Caudron était arrivé sur mes talons sans que je m'en rende compte de rien. La route d'art obscurcissait mon vif. Lorsque je ne pensais pas spécifiquement à Eau de Nuit, le loup n'était qu'une ombre vague dans mon esprit.
« Je serais même moins que ça si je ne m'efforçais pas de rester avec toi, »
dit-il d'un ton inquiet. « Ça ira. Il faut seulement que je fasse attention, » répondis-je. Caudron crut que je m'adressais à elle.
« En effet !»
D'un geste décidé, elle me prit par le bras et m'entraîna à la suite des autres. Ils avaient déjà pris de l'avance. Astérie marchait en compagnie du fou et chantait une chanson d'amour, mais lui ne cessait de me jeter des coups d'œil soucieux par-dessus son épaule. Je lui fis un signe de la tête et il me le rendit d'un air préoccupé. Caudron me pinça le bras.
« Occupez-vous de moi ! Parlez-moi ! « Tenez, avez-vous résolu le problème que je vous ai soumis ?»«
Pas encore, » avouai-je. Les journées se réchauffaient, mais le vent qui soufflait menaçait encore sur les plus hauts sommets. Si j'y prêtais attention, je sentais le froid sur mes joues, mais la route d'art me commandait de ne pas y penser. Elle montait désormais régulièrement, et pourtant il me semblait marcher sans effort sur sa surface. Mes yeux me disaient que je gravissais une pente, mais j'avançais avec autant d'aisance que si je la descendais. Caudron me pinça encore une fois.
« Concentrez-vous sur le problème, » ordonna-t-elle sèchement. « Et ne vous y trompez pas. Votre corps se fatigue et il a froid. Ce n'est pas parce que vous n'en avez pas constamment conscience que vous pouvez ne pas en tenir compte. Marchez lentement. »
Ces conseils me parurent à la fois absurdes et avisés. Je m'aperçus qu'en s'accrochant à mon bras, non seulement elle se soutenait, mais elle me forçait aussi à ralentir le pas. Je raccourcis mes enjambées pour me mettre à l'unisson des siennes. Les autres n'ont pas l'air d'en souffrir, remarquai-je.
C'est exact, mais ils ne sont ni âgés ni sensibles à l'art. Ce soir, ils auront des courbatures et demain, ils marcheront moins vite. Cette route a été créée dans l'idée que ces usagers seraient inconscients de ces influences les plus subtiles ou bien formées à les maîtriser.
Comment savez-vous tout cela ? Demandai-je, soudain attentif.
C'est à moi que vous vous intéressez ou à la route ?
Répliqua-t-elle d'un ton cassant. Ma foi aux deux, fis-je. Elle ne répondit pas.
Connaissez-vous vos comptines ?
S'enquit-elle après un long silence. J'ignore pourquoi cette question me mit en colère.
Je n'en sais rien, dis-je.
Je n'ai aucun souvenir de ma petite enfance, à l'époque où la plupart des enfants les apprennent. À la place, on m'a appris des comptines d'écurie. Voulez-vous que je vous récite les 15 points qui désignent un bon cheval ?
Récitez-moi plutôt si sages s'en sont venus à Jahamp, gronda-t-elle. De mon temps, non seulement on enseignait les comptines aux enfants, mais aussi leur signification. Nous gravissons le mont dont il est question dans celle-ci, jeune ignorant. Celui sur lequel nul sage ne monte en espérant en redescendre.
Un frisson glacé me parcourut l'échine.
En quelques rares occasions, il m'est arrivé de percevoir une vérité symbolique d'une façon telle qu'elle apparaissait dans sa plus effrayante nudité. Ce fut là une de ces occasions.
Caudron venait de placer à l'avant-plan de mes pensées ce que je savais déjà depuis des jours.
Les sages étaient des artiseurs, n'est-ce pas? Fis-je à mi-voix. 6, puis 5, puis 4, clan, puis ce qu'il en restait.
Mon esprit gravissait l'escalier de la logique en substituant l'intuition à la plupart des degrés.
C'est donc ce qu'il est advenu des artiseurs, les anciens, que nous n'avons pas pu retrouver.
Lorsque le clan de Galen s'est avéré inefficace, expliquai-je à Caudron, alors que Vérité avait besoin d'aide pour défendre Serre, le roi Servant et moi avons cherché les anciens artiseurs, ceux qui avaient été les disciples de Sollicité avant que Galen devienne maître d'art. Nous n'avons retrouvé que quelques noms dans les archives, et ceux à qui ils appartenaient étaient tous morts ou avaient disparu. Nous avons soupçonné quelques félonies.
Caudron émit un petit rire dédaigneux.
Cela n'aurait rien de nouveau dans les clans. Mais le plus souvent, ces artiseurs dont le talent grandissait devenaient de plus en plus sensibles à l'art, qui finissait par les appeler. Si on le maîtrisait assez, on pouvait survivre à un voyage sur cette route. Sinon, c'était la mort.
Et si on réussissait? Demandai-je.
Caudron me lança un regard en biais, mais ne répondit pas.
Qu'y a-t-il au bout de cette route? Qui l'a construite et où mène-t-elle?
À Vérité, murmura-t-elle enfin. Elle mène à Vérité. Nous n'avons pas besoin d'en savoir davantage, vous et moi.
Mais vous en savez bien plus, m'exclamai-je d'un ton accusateur.
Et moi aussi. Elle mène aussi à la source de l'art.
Son regard devint inquiet, puis se pacifia.
Je n'en sais rien, répondit allègrement.
Puis, comme prise de remords,
je nourris de nombreuses hypothèses, et j'ai entendu beaucoup de demi-vérités, de légendes, de prophéties, de rumeurs. Voilà tout ce que je sais.
Et comment les connaissez-vous? Insistai-je.
Elle me regarda dans les yeux.
J'y suis condamné, tout comme vous.
Et refusant de prononcer un mot de plus sur ce sujet, elle disposa des parties hypothétiques sur la grille du tissu, en me demandant quel coup je jouerais selon que j'avais une pierre noire, rouge ou blanche. Je m'efforçais de me concentrer sur le jeu, car je savais qu'elle m'y invitait pour empêcher mon esprit de vagabonder. Mais ne pas prêter attention à la force d'art de la route s'assimilait à ne pas tenir compte d'un vent puissant ou d'un courant d'eau glacée. Je pouvais m'y astreindre, mais cela ne la faisait pas disparaître. En plein milieu d'une réflexion sur une stratégie nouvelle, je m'étonnais des formes que prenaient mes propres pensées, et il me sembla qu'elles ne m'appartenaient pas, mais qu'elles provenaient de quelqu'un d'autre avec qui j'eusse établi un lien mental. Je parvins à conserver l'énigme que Caudron me soumettait au premier plan de mon esprit, mais les voix murmurantes n'en demeuraient pas moins en fond. La route montait sans cesse avec force lassée. La montagne se dressait presque à pic sur notre gauche et tombait aussi abruptement sur notre droite, entaillée par cette route qui passait là où nul bâtisseur sain d'esprit ne l'aurait tracée. La plupart des voies commerciales suivent les vallées et les cols, mais celle-ci escaladait la montagne et nous emmenait toujours plus haut. À la tombée du jour, Caudron et moi, nous étions laissés distancés par nos compagnons. Œil de Nuit partit en éclaireur, puis revint nous annoncer qu'ils avaient trouvé un emplacement, vaste et plan, sur lequel ils dressaient la tente. Avec la venue de la nuit, le vent devenait mordant, et me réjouissant à l'avance de me reposer au chaud, j'incitai Caudron à se hâter.
« Me hâter ? » rétorqua-t-elle. « Mais c'est vous qui ralentissez sans cesse ! Allons, restez à ma hauteur !»
La dernière marche avant l'arrivée de la garnison est toujours la plus longue, me disaient les soldats de Castelserre, mais ce soir-là, j'avais l'impression de marcher dans du sirop, tant mes pieds me paraissaient lourds. Je m'arrêtais constamment, me semble-t-il. En tout cas, Caudron me tirait fréquemment par le bras en me répétant de la suivre, et même quand nous passâmes un pli de la montagne et que la tente illuminée m'apparut, je n'arrivais pas à accélérer. Comme dans un rêve de fièvre, je voyais la yourte toute proche, puis très éloignée l'instant d'après. J'avançais lourdement. Des foules chuchotaient autour de moi. La nuit obscurcissait ma vision et le vent glacé m'obligeait à plisser les yeux. Une vaste troupe de gens nous croisa sur la route, accompagnée de mules battées. Des jeunes filles qui riaient aux éclats portaient des paniers remplis de fils multicolores. Je me retournai au passage d'un marchand de sonnettes. Il portait un râtelier sur l'épaule et des dizaines de clochettes en bronze de toutes formes et de toutes tailles carillonnaient au rythme de ses pas. Je tirai Caudron par la manche pour le lui montrer, mais elle me saisit le bras dans une poigne de fer et m'obligea à la suivre. Un adolescent passa à grandes enjambées. Il descendait au village avec une hotte pleine de fleurs des montagnes, aux couleurs vives desquelles émanait une fragrance entêtante. Je me libérai de l'étreinte de Caudron et courus derrière le jeune garçon. Je voulais acheter des fleurs pour Molly afin qu'elle en parfume ses bougies.
« À l'aide !» s'exclama Caudron.
Je tournai la tête pour voir ce qui lui arrivait, mais elle ne se trouvait plus à mes côtés, et je ne la vis nulle part dans la foule.
« Caudron !»
criai-je. Je me rendis soudain compte que le marchand de fleurs était en train de s'éloigner.
« Attends !»
lui lançai-je.
« Il s'en va !»
s'écria Caudron, et il y avait de la peur et du désespoir dans sa voix. Œil de Nuit me heurta brutalement dans le dos. Son poids et son élan me projetèrent à plat ventre dans la mince couche de neige qui recouvrait la surface lisse de la route. Malgré mes moufles, je m'écorchais la paume des mains et une douleur cuisante naquit dans mes genoux.
« Idiot !»
grondai-je en essayant de me relever. Mais il me saisit par une cheville et me fit retomber, et je me retrouvai allongé au bord de la route. Le regard plongé dans l'abîme qui l'allongeait. La douleur et la stupéfaction que je ressentais avaient pétrifié la nuit. La foule avait disparu. Et je restais seul avec le loup.
« Œil de Nuit !»
m'écriai-je.
« Laisse-moi me lever !»
Mais il referma la mâchoire sur mon poignet et entreprit de me tirer à l'écart du bord de la route. J'ignorais qu'il possédât une telle force, ou plutôt, je n'aurais jamais cru qu'il s'en servirait un jour contre moi. Je le frappais vainement de ma main libre pour le repousser tout en hurlant et en essayant de me redresser. Je sentais le sang couler le long de mon bras, là où un croc s'était enfoncé dans ma chair. Tout à coup, Ketriken et le fou se trouvèrent à mes côtés. Ils me prirent par les bras et me remirent debout.
« Il est devenu fou !»
m'exclamai-je alors qu'Astérie arrivait en courant. Elle était blême et ses yeux étaient écarquillés.
« Oh le loup !»
s'écria-t-elle en se laissant tomber à genoux pour le serrer dans ses bras. Œil de Nuit resta assis, haletant, manifestement ravi de cette étreinte.
« Mais qu'est-ce qui t'a pris ?»
lui demandai-je furieux. Il me regarda, mais ne répondit pas. Ma première réaction fut stupide. Je portai mes mains à mes oreilles. Je savais pourtant pertinemment que ce n'était pas ainsi que je percevais ce que me disait Œil de Nuit. Il poussa un gémissement en voyant mon geste, et je l'entendis parfaitement. C'était un gémissement de chien.
« Œil de Nuit !»
criai-je. Il se dressa sur les pattes arrière et posa celle de devant sur ma poitrine. Il était si grand que ses yeux étaient presque au niveau des miens. Je captai un écho de son inquiétude et de son désespoir, mais rien de plus. Je tendis mon vif et ne le trouvai pas. Je ne percevais plus personne. On eût dit que tous mes compagnons avaient été forgisés. Je levai les yeux vers leurs visages effrayés et me rendis compte qu'ils parlaient. Non, hurlaient presque. Il était question du bord de la route, de la colonne noire. Quelqu'un demandait sans cesse « Que s'est-il passé ? Que s'est-il passé ?» Je fus soudain frappé du manque de grâce de la parole. Tous ces mots rattachés les uns aux autres, que chaque bouche prononçait différemment. Et c'était ainsi que nous communiquions ?«
Fitz, Fitz, Fitz » criait-il.
C'était mon nom et il me désignait, je suppose. Mais chaque voix l'exprimait autrement, et chacun avait une image différente de celui dont il parlait et de la raison pour laquelle il voulait me parler. Les mots étaient des objets trop mal commodes. Je ne parvenais pas à me concentrer sur le sens que mes compagnons essayaient de leur donner. C'était comme s'adresser à un marchand étranger. On fait des gestes, on sourit, ou on fronce les sourcils, et on s'efforce de deviner. On ne fait qu'imaginer ce que l'autre veut dire.
S'il vous plaît, fis-je, taisez-vous, s'il vous plaît.
Je désirais seulement qu'ils fassent silence, qu'ils cessent les bruits qu'ils faisaient avec leur bouche. Mais le son de mes propres paroles capta mon attention.
« S'il vous plaît !»
répétai-je, en m'étonnant de tous les mouvements que devait effectuer ma propre bouche pour produire ces sons imprécis.
« Taisez-vous !»
Je m'aperçus que ces deux mots avaient trop de sens pour n'en avoir qu'un seul véritable. Un jour, alors que je venais de connaître Burick, il m'avait ordonné de défaire le harnais d'un équipage de chevaux. Nous en étions encore à prendre la mesure l'un de l'autre, et la tâche qu'il m'avait donnée n'était pas de celle qu'un homme, dans son bon sens, confie à un enfant. Mais je me débrouillais. Je grimpais sur les dociles bêtes et défis toutes les boucles et toutes les agrafes jusqu'à ce que le harnais gît en morceaux sur le sol. Quand Burick revint voir ce qui me prenait tant de temps, il demeura muet de stupéfaction, mais ne put me reprocher de n'avoir pas obéi à son ordre. Quant à moi, j'étais effaré du nombre de pièces qui entraient dans la composition d'un objet, apparemment d'une seule pièce, quand je m'y étais attaqué. J'avais la même impression sur la route. Tous ces sons pour faire un mot, tous ces mots pour former une pensée. Le langage tombait en morceaux entre mes mains. Jamais je n'y avais réfléchi. Je me tenais devant mes compagnons, immergé dans l'essence de l'art, et parler me paraissait aussi inefficace et puéril que manger du gruau avec les doigts. Les mots étaient lents, flous, et ils dissimulaient le sens autant qu'ils le révélaient.
« Fitz, il faut que vous... »
fit Ketriken, et l'étude de toutes les significations possibles de ces cinq mots m'absorba tant que je n'entendis pas la fin de sa phrase. Le fou me prit par la main et m'entraîna sous la tente. Là, il me poussa et me tira jusqu'à ce que je m'assoie, après quoi il m'ôta ma coiffe, mes moufles et mon manteau, et sans un mot, il me plaça une chope chaude entre les mains. Cela, je pouvais le comprendre, mais les échanges rapides et préoccupés des autres m'évoquaient les caquettements effrayés d'une cagée de poules. Le loup entra et s'allongea près de moi, sa grande tête posée sur une de mes cuisses. Je caressais ses douces oreilles. Il se pressa contre moi dans une attitude presque implorante, et je le grattais derrière les oreilles. Peut-être était-ce ce qu'il désirait. C'était terrible de ne pas avoir de certitude. Je ne rendis guère de service ce soir-là. Chaque fois que j'essayais d'accomplir ma part de corvée, quelqu'un s'en chargeait à ma place. À plusieurs reprises, Caudron me pinça ou m'enfonça un coude dans les côtes avec un « Réveillez-vous !» abrupt. En une de ces occasions, les mouvements de ses lèvres, alors qu'elle me tensait, me fascinèrent tant qu'elle s'en alla sans que je m'en rende compte, et je ne me rappelle pas ce que je faisais quand elle me saisit la nuque d'une main aussi sèche qu'une serre. Elle m'obligea à me pencher vers l'avant et me maintint dans cette position tout en désignant du doigt chacun des cailloux disposés sur le tissu, puis elle me mit une pierre noire dans la main. Pendant un moment, je contemplais fixement le jeu et je sentis soudain un changement de perception. Il n'y avait plus de distance entre moi et les cailloux. J'imaginais ma pierre dans diverses positions et finis par trouver le coup parfait. Quand je posais le caillou, j'eus l'impression que mes oreilles se débouchaient ou que le sommeil quittait tout à coup mes yeux. Je promenais mon regard sur mes compagnons. « Excusez-moi, » marmonnai-je, tout en sachant que c'était insuffisant. « Excusez-moi. »«
Ça va mieux ?»
me demanda Caudron d'une voix douce, comme si elle s'adressait à un tout petit enfant. « Je suis davantage moi-même, oui. » répondis-je. Je plantai mes yeux dans les siens soudain à bout. Que m'est-il arrivé ?
L'art, dit-elle simplement. Vous ne le maîtrisez pas assez. Vous avez failli suivre la route là où elle ne va plus. Il se trouve là une espèce de repère qui marquait une bifurcation. Un des embranchements descendait vers la vallée, l'autre continuait à flanc de montagne. Le premier a disparu, emporté par un cataclysme, il y a bien longtemps. Il ne reste plus en bas qu'un chaos de pirailles,
Mais un peu plus loin, la route en émerge, puis elle s'évanouit à nouveau plus loin parmi la caillasse. Vérité n'a sûrement pas pris ce chemin, mais vous avez failli mourir en suivant le souvenir de cette partie de la route.
Elle se tut, le regard sévère.
De mon temps. Vous n'avez pas été assez formé pour ce que vous avez déjà fait, et encore moins pour ce défi. Si vous ne pouvez pas faire mieux que cela, êtes-vous certain que Vérité est vivant ?
Me demanda-t-elle brusquement.
Qu'il a survécu seul à cette épreuve ?
Je jugeai qu'il était temps que l'un de nous cesse de faire des mystères. Je l'ai vu dans un rêve d'art, dans une ville remplie de gens semblables à ceux que nous avons croisés aujourd'hui. Il a plongé ses mains et ses bras dans un fleuve magique, et il s'en est allé, chargé de pouvoir.
« Dieu des poissons !»
sacra Caudron, les traits empreints d'horreur et d'admiration à la fois.
« Mais nous n'avons croisé personne aujourd'hui, » protesta Astérie.
Je ne m'étais pas rendu compte qu'elle s'était assise à côté de moi, et je sursautais, effrayé qu'on puisse approcher autant de moi sans que je perçoive rien.
« Tous ceux qui ont emprunté cette route y ont laissé quelque chose de même. Vos sens ne décèlent pas ces fantômes, Astérie, mais Fitz s'avance ici nu comme un nouveau-né, et aussi naïf. »
Caudron se laissa soudain aller contre son rouleau de couchage, et les rides de son visage se creusèrent.
« Comment se peut-il que le catalyseur soit un tel enfant ? »
fit-elle sans s'adresser à personne.
« Vous n'êtes même pas en mesure de vous sauver de vous-même. Comment allez-vous sauver le monde ?»
Le fou se pencha pour me prendre la main. Une sorte de force s'écoula en moi à travers ce contact rassurant. Les prophéties n'ont jamais garanti la compétence, seulement la persévérance, dit-il. Le ton était léger, mais les mots me firent profonde impression. Que dit Colum le Blanc déjà ? Il tombe comme des gouttes de pluie sur la pierre des tours du temps, mais c'est toujours la pluie qui l'emporte et non la tour. Il pressa ma main. « Tu as les doigts glacés, » lui dis-je alors qu'il s'écartait. « J'ai plus froid que tu ne peux l'imaginer, » acquiesça-t-il. Il ramena ses genoux sous son menton et les enserra dans ses bras.
« J'ai froid, et je suis fatigué, mais je persévère. »
À cet instant, je croisais le regard d'Astérie. Un sourire entendu flottait sur ses lèvres. Dieu qu'elle m'exaspérait !« J'ai de l'écorce elfique dans mon sac, » dis-je au fou. Ça réchauffe et Sarah gaillardit.
« De l'écorce elfique !»
grogna Caudron comme s'il s'agissait d'un produit répugnant. Mais après réflexion, elle s'écria d'un ton excité.
« Mais oui, c'est peut-être une bonne idée, oui, de l'écorce elfique !»
Quand je tirai le médicament de mon paquetage, Caudron me le prit vivement des mains, comme si je risquais de me blesser, et en versa d'infimes portions dans deux chopes en marmonnant dans sa barbe.
« J'ai vu les doses auxquelles vous vous exposez !»
me réprimanda-t-elle, et elle prépara elle-même la tisane. Elle ne mit pas d'écorce elfique dans celle qu'elle servit à Catricaine, Astérie et elle-même. Je pris une gorgée du breuvage brûlant. Je sentis d'abord l'âcre morsure de la décoction sur ma langue, puis sa chaleur apaisante qui se répandait dans mon estomac et tout mon organisme. J'observais le fou, et je le vis se détendre lui aussi, tandis que ses yeux se mettaient à pétiller. Catricaine avait sorti sa carte et l'étudiait, les sourcils froncés. « Fils de chevalerie, examinez ceci avec moi !» m'ordonna soudain la reine. Je contournai le brasero pour venir m'asseoir à côté d'elle, et elle enchaîna aussitôt. « Je crois que nous sommes ici. » Elle tapota de l'index la première bifurcation de la route. Vérité disait vouloir visiter les trois sites indiqués sur la carte. Je pense qu'au temps où elle a été dessinée, la route que vous avez failli suivre était intacte. Mais elle n'existe plus depuis un certain temps déjà. Ses yeux bleus croisèrent les miens. À votre avis, qu'a fait Vérité une fois là ? Je réfléchis. C'est un homme pragmatique.
La seconde destination ne doit pas se trouver à plus de 3 ou 4 jours de marche. Il a pu commencer par là, sa recherche des anciens. Et la troisième n'est distante de la deuxième que de 7 jours de marche, disons. Il a pu juger plus rapide de visiter d'abord ces deux sites, puis, en cas d'échec, de revenir ici et de descendre voir ce qu'il y a en bas. Elle plissa le front, et je me rappelais soudain comme il était lisse lorsqu'elle avait été fiancée à Vérité. À présent, rares étaient les occasions où des rides d'inquiétude ne creusaient pas ses traits. Mon époux est parti depuis 1 an. Or, il ne nous a pas fallu autant de temps pour parvenir jusqu'ici. Peut-être n'est-il pas revenu parce qu'il est descendu en bas de la pique et qu'il a cherché longtemps un moyen d'y parvenir afin de poursuivre sa route. Peut-être, acquiesçai-je, mal à l'aise. Mais n'oubliez pas que nous sommes bien équipés et que nous voyageons en groupe. Vérité, lui, arrivé ici, devait être seul et sans guère de moyens. Je me retins d'ajouter qu'il avait sans doute été blessé au cours de la bataille. Inutile d'accroître l'anxiété de Ketriken. Je sentis qu'une partie de moi-même se tendait vers Vérité sans que ma volonté intervînt. Je fermai les yeux et bloquai résolument toutes mes issues. Était-ce mon imagination, ou bien avais-je réellement perçu une souillure dans le courant d'air, l'impression trop familière d'un pouvoir insidieux? Je dressai mes remparts. Nous séparer? Pardon, ma reine, je n'écoutais pas, dis-je d'un ton humble. J'ignore si ce fut de l'exaspération ou de la peur que je lus dans ses yeux. Elle me prit la main et la serra fermement. « Faites attention, » m'ordonna-t-elle. « Je disais que demain nous chercherons un moyen de descendre. Si nous découvrons un indice prometteur, nous continuerons. Mais nous ne devons pas accorder à cette recherche plus de 3 jours, je pense. Si nous ne trouvons rien, nous reprendrons la route. Mais nous avons aussi la possibilité de nous séparer pour envoyer... » Je l'interrompis. Je ne crois pas que nous devions nous séparer. Vous avez sans doute raison. Mais le temps passe inexorablement, et je suis seul depuis trop longtemps avec mes questions. Je ne vis pas que répondre, et fis semblant d'être très occupé à gratter les oreilles d'œil de nuit. Mon frère! Ce n'était guère qu'un murmure, mais je baissai les yeux vers le loup, puis je posai la main sur sa nuque pour renforcer le lien d'un contact physique. Tu étais aussi vide qu'un humain ordinaire. Je n'arrivais même plus à te faire sentir que j'étais là. Je sais. J'ignore ce qui m'est arrivé. Moi si. Tu t'éloignais de plus en plus de mon côté vers l'autre côté. J'ai bien peur qu'un jour tu n'ailles trop loin et que tu ne sois incapable de revenir. J'ai bien cru que c'était ce qui s'était passé aujourd'hui. Mon côté. L'autre côté. Que veux-tu dire? « Vous entendez à nouveau le loup ?» me demanda Ketriken d'un ton soucieux. Je fus surpris lorsque je la regardais de l'anxiété avec laquelle elle me dévisageait. « Oui, nous sommes réunis, » répondis-je. Une question me traversa soudain l'esprit. « Comment saviez-vous que nous ne pouvions plus communiquer ?» Elle haussa les épaules. « Simple supposition, j'imagine. » Le loup paraissait très inquiet, et vous très loin de tout et de tous.
« Elle a le vif, n'est-ce pas, ma reine ?»
Je ne saurais affirmer qu'un contact s'établit entre eux. Une fois, très longtemps auparavant à Castelserre, il m'avait semblé sentir Ketriken user du vif. Rien n'interdisait donc de penser qu'elle l'employait à nouveau avec le loup, mais je n'en savais rien car mon propre sens du vif était si diminué que je percevais à peine mon propre compagnon de lien. Quoi qu'il en fût, Œil de Nuit leva la tête vers Ketriken, et elle lui rendit son regard. Puis, elle dit en fronçant légèrement les sourcils. « Parfois, j'aimerais pouvoir lui parler comme à vous. Si j'avais sa vitesse et ses talents de chasseur à ma disposition, je saurais mieux les risques que présente cette route, devant et derrière nous. » Et il serait peut-être capable de trouver un moyen de descendre qui échappe à nos yeux.
Si tu es en mesure d'utiliser ton vif pour lui raconter ce que je vois, je suis prêt à lui obéir.
Œil de Nuit serait très heureux de vous aider de cette façon, ma reine, dis-je. Elle eut un sourire las,
Alors, si vous arrivez à rester conscient de nous deux, peut-être pourriez-vous servir d'intermédiaire. »
Cet inquiétant écho des pensées du loup me troubla, mais je hochai la tête en signe d'assentiment. Il me fallait désormais faire preuve de la plus grande attention pour suivre la conversation, sans quoi le fil m'échappait. C'était comme être terriblement fatigué et être obligé de combattre le sommeil pied à pied. Avait-ce été aussi dur pour vérité?
Il est possible de maîtriser cet effet. Cependant, il faut s'y prendre avec la plus grande légèreté, comme pour dompter un étalon furieux qui ne supporte ni le mors ni le talon. Mais tu n'y es pas encore prêt. Aussi, bats-toi, mon garçon, garde la tête au-dessus de l'eau. J'aimerais qu'il existe un autre moyen pour toi de me rejoindre, mais il n'y a que la route, et tu dois la suivre. Non, ne réponds pas. Sache que d'autres tendent l'oreille presque aussi avidement que moi. Sois prudent.
Un jour qu'il me parlait de mon père, Vérité avait dit que, lorsqu'on se faisait artiser par lui, c'était comme se faire piétiner par un cheval. Chevalerie arrivait en trombe, larguait ses messages et s'en allait aussi vite qu'il était venu. Je comprenais mieux maintenant ce qu'avait décrit mon oncle. Sauf que j'avais plutôt l'impression d'être un poisson qu'une vague vient de jeter sur la plage. Le départ de Vérité me laissait un sentiment de manque béant. Il me fallut un moment pour me rappeler ce que j'étais. Si l'écorce elfique ne m'avait pas préalablement fortifié, je crois bien que je me serais évanoui. Je sentis néanmoins le contre-coup du produit. J'avais la sensation d'être enveloppé dans une couverture tiède et moelleuse. Ma fatigue avait disparu, mais je me sentais hébété. Je vidai le reste de ma tasse et attendis la bouffée d'énergie que me procurait d'habitude l'écorce elfique. Elle ne vint pas.
« Je crois que vous n'en avez pas mis assez, » dit Jacques Audron.
« Vous avez eu ce qu'il fallait, »
rétorqua-t-elle d'un ton rude. J'eus l'impression d'entendre Molly lorsqu'elle pensait que je buvais trop. Je me raidis dans l'attente des images qui allaient sûrement envahir mon esprit, mais non, je demeurais dans ma propre existence. J'ignore si j'en fus soulagé ou déçu, je mourais d'envie de les voir, Molly et Horty, mais Vérité m'avait mis en garde.
Vérité vient de m'artiser, annonçai-je avec retard à Ketriken, et puis je me traitais de rustre et de crétin en voyant l'espoir naître sur ses traits.
Ce n'était pas vraiment un message, me repris-je vivement, mais simplement le rappel que je devais éviter d'artiser. Ils pensent toujours que d'autres peuvent chercher à me localiser par ce moyen. La joie disparut de son visage, et elle secoua la tête, puis elle me regarda.
Il n'a pas eu un mot pour moi?
Je biaisais. J'ignore s'il sait que vous êtes à mes côtés.
Pas un mot,
dit-elle d'un ton lugubre, comme si elle ne m'avait pas entendu. Ses yeux devinrent ternes.
Sait-il que je l'ai trahi? Est-il au courant pour notre enfant?
Je ne crois pas, madame. Je ne perçois chez lui aucun chagrin dans ce sens, et je sais que cette nouvelle le peinerait. Ketriken avala sa salive. Je maudis mes propos maladroits, mais après tout, était-ce à moi de prononcer des paroles de réconfort et d'amour à l'épouse de Vérité? Elle se redressa brusquement puis se leva. « Je vais chercher du bois pour la nuit, » annonça-t-elle, « et du grain pour les gépas. Il n'y a pas la moindre brindille à brouter dans la région. » Elle sortit dans le noir et le froid. Nul ne dit mot. Après une respiration ou deux, je me levai à mon tour et la suivis.
« Ne restez pas trop longtemps dehors !»
me dit Caudron, énigmatique. Le loup m'emboîta le pas. La nuit était claire et glacée. Le vent n'avait pas empiré. On arrive presque à oublier les inconforts que l'on connaît. Ketriken ne cherchait pas de bois et ne nourrissait pas non plus les gépas. Ses deux corvées avaient déjà été exécutées, j'en étais sûr. Elle se tenait au ras de la route coupée, les yeux plongés dans l'abîme qui s'ouvrait à ses pieds, raide comme un soldat qui rend compte à son sergent, et muette. Elle pleurait sans doute. Il y a un temps pour les manières courtoises, un temps pour le protocole et un temps pour l'humanité. Je m'approchai d'elle
la prit par les épaules et l'obligeait à se retourner. Elle irraquait la détresse, et le loup à mes côtés poussa un gémissement aigu. « Ketriken, dis-je simplement, il vous aime. Il ne vous reproche rien. Il aura de la peine, certes, mais quel homme n'en éprouverait pas ? Quant aux actes de Royal, ce sont les actes de Royal. Ne vous en sentez pas responsable. Vous ne pouviez les empêcher. » Elle essuya ses larmes sans répondre. Son regard était fixé derrière moi et son visage était un masque blême à la clarté des étoiles. Elle soupira longuement, mais je la sentais toujours suffoquée de chagrin. Je passai mes bras autour des épaules de ma reine et l'attirai contre moi. Son front s'appuya près de mon cou. Je caressai son dos et perçus la terrible tension qui le raidissait. « Tout va bien, » dis-je, en sachant que je mentais. « Avec le temps, tout s'arrangera, vous verrez. Vous vous retrouverez. Vous ferez un autre enfant. Vous vous assiérez tous les deux dans la grande salle de Castelcerf pour écouter chanter les ménestrels. La paix reviendra. Vous n'avez jamais connu Castelcerf en temps de paix. Vérité aura de nouveau le temps de chasser et de pêcher, et vous l'accompagnerez. Le rire, les cris et les rugissements de Vérité retentiront à nouveau dans les couloirs comme le vent du nord. » Mijotte le jetait toujours hors des cuisines, parce qu'il se coupait des tranches de viande avant que les rôtis soient cuits, tant il était affamé en rentrant de la chasse. Il allait droit à la cheminée, il arrachait une cuisse à un poulet en broche, et il allait raconter ses aventures dans la salle de garde en agitant son pilon comme une épée. Tout en lui tapotant le dos comme à une enfant, je lui racontais l'homme bourru et chaleureux que je me rappelais de mon enfance. Pendant quelque temps, elle demeura immobile, le front sur mon épaule, puis elle toussa comme si elle s'étranglait. Et de violents sanglots la secouèrent soudain. Elle se mit à pleurer sans plus de honte qu'un enfant qui vient de tomber, qui a mal et qui a eu peur. Je sentis qu'elle retenait ses larmes depuis longtemps et ne fit rien pour les arrêter. Je continuai à parler tout en lui caressant le dos et sans guère entendre moi-même ce que je disais jusqu'à ce que ses sanglots diminuent et que ses tremblements s'apaisent. Enfin, elle s'écarta légèrement de moi pour chercher un mouchoir dans sa poche, et elle s'essuya le visage et les yeux, puis se moucha. « Ça va aller, » dit-elle, avec tant de conviction que j'en eus le cœur fendu. « Mais c'est dur, dur d'attendre de lui avouer toutes ces choses affreuses, en sachant qu'elles lui feront mal. » Elles m'en ont appris beaucoup sur le rôle de l'oblat, Fitz. Depuis toujours, je savais qu'il me faudrait peut-être supporter des peines effrayantes. Je suis assez solide pour les endurer. Mais personne ne m'avait averti que je finirais par aimer l'homme qu'on avait choisi pour moi. Supporter ma peine est une chose. L'imposer à celui que j'aime en est une autre. Sa voix s'étrangla sur ces mots, et elle inclina la tête. Je craignis qu'elle ne se remît à pleurer, mais non. Elle leva le visage vers moi et me sourit. Le clair de lune fit scintiller les larmes sur ses joues et ses cils. « Parfois, je crois que vous et moi sommes les seuls à voir l'homme derrière la couronne. J'ai envie de l'entendre rire et rugir, de voir ses bouteilles d'encre ouvertes et ses cartes éparpillées partout. J'ai envie qu'il me serre dans ses bras. J'en ai parfois tellement envie que j'en oublie les pirates rouges, Royal et le reste. Il me semble par moments que si nous pouvions seulement être réunis, tout s'arrangerait par ailleurs. Ce n'est pas une pensée très honorable. Un oblat se doit d'être plus... » Un reflet argenté derrière elle attira mon regard, et par-delà son épaule, je vis la colonne noire. Elle se dressait à l'oblique au-dessus de la fracture où s'était abîmée la route, la moitié de son socle emporté. Je n'entendis plus ce que disait Ketriken. Comment avais-je fait pour ne pas voir la colonne jusque-là? Taillée dans une roche noire, veinée de cristal étincelant, elle scintillait d'un éclat plus vif que la lune sur la neige glacée. On eût dit les étoiles reflétées par la surface ondoyante d'un fleuve d'art. Je ne voyais rien d'écrit dans la pierre.
Le vent hurlait derrière moi quand je tendis la main et caressais la roche lisse. Elle me souhaita la bienvenue.
Vous venez d'écouter La Voix Magique, L'Assassin Royal, tome 5, de Robin Hobb, traduit par Arnaud Mounier-Lompré, lu par Sylvain Agaès.